VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h en temps universel. Les Gambiens ont commencé à voter depuis ce matin pour choisir leur nouveau président parmi trois candidats en liste, dont le sortant Yahya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans et un candidat unique d'une large coalition de l'opposition Adama Barrow. Quelques 890 000 Gambiens sur près de 2 millions d'habitants devront départager les trois candidats en liste, Yahya Jammeh, Adama Barrow et Mama Kandé, ancien député du parti au pouvoir, représentant une nouvelle formation. Fatou Diagne Senghor de l'ONG Article 19 doute de la sincérité du scrutin.
Aujourd'hui, la plupart des observateurs indépendants, crédibles, ne participeront pas à ce processus. Le consensus qu'on attendait, que la commission électorale allait en fait essayer de bâtir avec les différentes parties prenantes, ce consensus n'a jamais eu lieu. Il y a beaucoup d'unilatéralisme autour de tout ce processus. Le fichier électoral n'est pas un fichier consensuel. Il y a eu des rumeurs d'enregistrement en faveur du parti au pouvoir au-delà des délais. Et aujourd'hui, l'opposition n'a pas une visibilité claire, une visibilité sur ce fichier. Les signaux sont très rouges. Nous sommes très inquiets par rapport à des possibilités de violence. Mais nous espérons que le verdict du peuple sera respecté.
Fatou Diagne Senghor de l'ONG Article 19. Au Tchad, le collectif Justice Sourien entend profiter du jour anniversaire de l'accession au pouvoir d'Idriss Déby pour exposer la dictature du régime. Le porte-parole de cette coalition, Eric Hervé Pando, entend mobiliser les Tchadiens.
On nous a fait comprendre que la date du 1er décembre est l'avènement de la démocratie. On se retrouve avec le contraire. C'est-à-dire c'est l'étranglement de la démocratie dont on nous parlait dès les premières heures de l'avènement du MPS au pouvoir. C'est pas la démocratie. On nous a parlé de la liberté. On se rend compte qu'il n'y a pas la liberté d'expression. D'autres actions de grande envergure vont suivre encore si jamais le problème de nos compatriotes ne sont pas solutionnés.
Hervé Eric Pando, porte-parole du collectif tchadien Justice ou rien.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Burkina Faso veut mener une insurrection contre la pauvreté et il va le faire grâce à un plan de développement de 23,5 milliards d'euros sur 5 ans, a expliqué son premier ministre Paul Kaba Thiéba dans une interview avec l'AFP. Parlant de ce plan de développement économique et social, il a dit « Nous avons réussi l'insurrection populaire, allusion à celle qui a mis fin en 2014 à 27 années de règne du régime du président Blaise Compaoré. Nous avons résisté victorieusement à la tentative de coup d'État, autre allusion au qui a avorté de l'ex-garde pétrolienne du président Compaoré en septembre 2015. Il reste une insurrection à gagner. C'est l'insurrection contre la pauvreté, a déclaré le premier ministre burkinabé. Ce jeudi 1er décembre 2016 est la journée mondiale de lutte contre le sida. Plusieurs activités sont au programme au Mali avec des séances de dépistage volontaire et des messages de sensibilisation contre le VIH. La rupture de médicaments sera bientôt un mauvais souvenir, selon le secrétaire exécutif national de la lutte contre le sida au Mali. Malik Sen pense même qu'il faut décentraliser les sites de dépistage.
En 2015, c'était de 413 et puis après, ça a chuté en 386. Et le premier défi, c'est le défi du renforcement des systèmes de santé. En termes de quantité, il faut qu'on augmente les sites. Si nous avons 703 communes et que vous avez 400, 386, ça veut dire qu'il y a un différentiel qui est là, qui n'est pas couvert. Donc les populations de ces zones-là devraient se déplacer pour aller se faire soigner ailleurs. Dans ces conditions-là, si on n'a pas une aide, et si cette aide n'est pas bien orientée, est-ce qu'on peut atteindre les objectifs qu'on nous demande d'atteindre?
Malik Sen, de la lutte contre le sida au Mali. Au Togo, prise de conscience, on attire de nouveau l'attention sur les Africaines et autres étrangères qui travaillent comme femmes de ménage dans les pays du Golfe, où on n'hésite pas souvent à utiliser le mot esclavage pour décrire leur sort. C'est le cas pour des jeunes Togolaises dont une est décédée en octobre dernier au Liban, relançant ainsi le débat sur les conditions de vie et de travail sur ces jeunes femmes. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kai Lawson.
J'étais au Liban. Mais c'est pas facile quand même.
Non, faut pas pleurer.
J'ai fait Liban, Koweït, mais le Koweït, c'est plus dur. C'est le travail, esclavage.
Cette jeune dame que nous allons appeler Halima est une Togolaise de 27 ans. Elle est rentrée du Koweït il y a 5 mois. À la recherche d'un mieux-être, Halima a pris la décision d'aller dans les pays du Golfe où elle a eu à exercer comme femme de ménage pendant près de 4 ans d'abord au Liban, puis au Koweït. Pour un salaire moyen de 100 000 francs CFA, Alima travaille entre 15h et 20h par jour. Des conditions de travail exécrables, doublées de maltraitance et de menaces d'emprisonnement. Témoignage.
Quand j'étais au Liban, je me lève à 6 ou 7 heures. À minuit, comme ça, je dors. Mais quand j'étais au Koweït, des fois, je dors à 4 heures du matin. Au Koweït, j'ai fait 3 mois sans prendre mon salaire. Maintenant, je réclame mon salaire. Et mes patrons allaient mentir à la police que j'ai frappé leur enfant. Et les policiers sont venus à la maison pour m'arrêter. Ils m'ont frappé, ils m'ont amené à la police et ils m'ont fermé en même temps. Ils m'ont rien payé. Maintenant, ils m'ont pris pour aller vendre à une autre dame encore. Là, ces enfants veulent me violer. Quand je dois rentrer dans la chambre pour venir coucher avec moi.
Alima a eu de la chance pour revenir au Togo, estime le comité de réflexion et d'action pour la promotion des droits de l'homme, CRAF. Selon Dossé Sorhe, président du CRAF, les Togolaises sont devenues des esclaves dans des pays du Golfe où elles travaillent pendant des années sans salaire.
C'est l'esclavage moderne. Le cas qui se passe habituellement, c'est que lorsque vous signez un contrat de 2 ans ou 3 ans avec votre patronne, le contrat stipule qu'à la fin, on rassemble tous les salaires pour vous payer. Mais à l'approche de l'échéance, 5 mois ou 3 mois par exemple, on vous accuse de vol et on vous amène à la police pour vous arrêter juste pour se soustraire de l'obligation qui la contraint à pouvoir vous payer le cumul de salaire.
Le 17 octobre dernier, la jeune Togolaise Amélie Sizing est décédée au Liban. Une mort dont les parents ignorent la cause. Ayaba Sizing est le grand frère de feu Amélie Sizing.
La famille Sizing ne connaît pas l'origine de sa mort, mais elle le connaît quand même, avoir reçu des appels de leur fille qu'elle a été menacée par son patron pour la simple raison qu'elle réclamait son droit. Le contrat qu'ils avaient signé était déjà épuisé et qu'elle devait entrer en possession de ses droits. Donc c'était au cours de la réclamation de ses droits-là que les menaces ont commencé, où elle a pu quand même s'échapper. Et elle s'est retrouvée à l'hôpital par la Croix-Rouge qui devait la soigner. Et un jour, la famille a reçu un appel de la part d'un blanc qui leur disait que leur fille était en traitement et quand tout ira bien, on l'enverra au pays. Malheureusement pour nous, un jour, on apprend que c'est comme ça, notre sœur ne vit plus.
Pour le mouvement Martin Luther King qui a fait de ce sujet une de ses priorités, c'est une mort de trop. Pasteur Edo Kwame, président de ce mouvement, interpelle les députés et toute la population togolaise.
Le mouvement Martin Luther King a demandé aux parlementaires togolais d'interpeller le ministre des Affaires étrangères pour que ce dernier puisse situer l'opinion sur le sujet. De ce ministre, nous attendons d'abord une mission diplomatique dans la zone pour recenser les Togolaises qui sont dans ces situations-là et puis procéder à un rapatriement volontaire. Aussi, nous avons demandé à ce que les produits libanais soient boycottés au Togo.
Pour rappel, depuis plus de 2 ans, le gouvernement togolais a interdit le voyage des jeunes filles au départ de l'aéroport de Lomé vers le Moyen-Orient pour des travaux domestiques. Kailosson, Lomé, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le convoi de l'urne funéraire de Fidel Castro a marqué un arrêt mercredi soir devant le mausolée d'Ernesto Che Guevara à Santa Clara, dans le centre de Cuba. Une étape pour l'histoire avant le départ des restes de l'ex-président décédé à 90 ans vers sa dernière demeure de Santiago de Cuba, dans l'est du pays. Après 2 jours d'hommage à la Havane, les cendres contenues dans un coffre de cèdre enveloppé d'un drapeau cubain et protégé sous une boîte de verre effectuent en sens inverse le trajet parcouru par Fidel Castro au moment de la victoire de sa guérilla en 1959. Et puis, aux États-Unis, ici, Donald Trump est en voyage à Indianapolis dans une usine de fabricant de climatiseurs, Carrier, symbole de la politique anti-délocalisation qu'il entend mener grâce à ses ministres du Trésor et du Commerce, fraîchement nommés la veille. Selon son entourage, il n'y aura pas de nouvelles nominations cette semaine, alors que celle du ministre des Affaires étrangères et du ministre de la Défense semblait imminente. Pour son chef de la diplomatie, Donald Trump hésite encore entre le républicain modéré Mitt Romney, l'ancien patron de la CIA, David Petraeus, le sénateur républicain Bob Corker et l'ancien maire de New York, Rudolph Giuliani. Jean-Roger Billon à ce micro, fin de ce journal. Le prochain, ce sera dans 50 minutes, en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Eminato.